Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.
Merci de nous rejoindre si vous prenez en marche et merci de votre fidélité si vous nous suivez depuis longtemps. Ce numéro d'économie a fait un zoom sur la guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump, guerre qui vise les partenaires traditionnels de son pays comme le Canada, le Mexique et les pays membres de l'Union européenne, mais aussi des adversaires comme la Chine. Et quelles conséquences ces différentes hausses des droits de douane des produits entrant aux États-Unis peuvent-elles avoir sur l'économie mondiale? Nous en parlerons dans la rubrique Regard sur l'économie avec Ousmane Banet, économiste et banquier d'affaires. À suivre aussi dans Economia de ce jour la rubrique itinéraire avec une jeune dame qui exerce dans le BTP, le bâtiment et les travaux publics. Nous la retrouverons dans une dizaine de minutes. Bienvenue à tous.
Regard sur la gestion économique nationale.
Après avoir imposé 25% de droits de douane sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis, décision touchant le Canada, la Chine et l'Union européenne, Donald Trump, le président américain, menace aussi de taxer à 200% les vins, champagne et autres alcools venant de l'Europe. Depuis donc son retour au pouvoir, le chef de l'exécutif américain a engagé une guerre commerciale qui n'épargne ni partenaires ni adversaires. Mesures déjà en vigueur ou suspendues, ripostes et nouvelles menaces américaines en retour, quelles conséquences sur l'économie mondiale et spécifiquement africaine? Ousmane Gbané, économiste et banquier d'affaires ivoiro-américain, nous parle des enjeux de cette guerre déclenchée par le président de la première puissance économique du monde. Il s'entretient avec Jean-Claude Comé dans ce numéro d'Economia.
Ousmane Gbané, bonjour.
Bonjour, monsieur Comé.
Alors, vous êtes ivoiro-américain depuis son accession à la magistrature suprême. Le président américain Donald Trump a déclenché ce qu'on peut qualifier de guerre économique contre ses partenaires et adversaires. Pour parler de partenaires, 25% de hausse des droits de douane à l'endroit de l'acier canadien. Comment comprendre cette initiative du président américain déjà?
Ben écoutez, la campagne de M. Trump était très claire. America First, make America great again. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'Amérique a une histoire et cette histoire a débuté quelque part. Donc, il y a eu des politiques qui ont amené les États-Unis aujourd'hui où ils sont. Et si vous regardez, le président Reagan avait un peu ce genre d'approche politique que M. Trump est en train de faire. Donc, il a décidé que les industries doivent être aux États-Unis pour créer des emplois et pour faire cela, il faut amener les autres à payer plus cher pour faire entrer leurs produits aux États-Unis.
Alors, mais pourquoi le choix de l'acier et l'aluminium déjà?
Bon, l'acier et l'aluminium déjà, ce sont les deux plus grands produits que les États-Unis importent du Canada. Et maintenant, pourquoi le Canada? C'est quand même notre voisin, notre ami le plus proche.
Et un partenaire commercial. Canada et Mexique et les États-Unis ont un accord commercial.
Voilà, mais ce qui se passe, c'est que depuis un certain temps, aux États-Unis, il y a eu un fléau d'une drogue qui est en train de détruire la population américaine. Ça s'appelle fentanyl. Et c'est en train de détruire, que ce soit Philadelphie, San Francisco, toutes les villes. Quand les gens consomment cette drogue-là, ça les rend comme des zombies. Et les États-Unis ont interpellé le Canada pour leur dire que ce produit-là est majoritairement fabriqué au Canada, sur les produits pharmaceutiques que les gens ont détournés. Et les Canadiens ont dit, écoutez, ils vont essayer de travailler dessus. Mais c'est en train de détruire le peuple américain. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles M. Trump a décidé de mettre des tarifs sur les produits canadiens. Le deuxième point aussi, c'est l'entrée illégale des gens qui rentrent par le Mexique, mais aussi du Canada. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles Trump a décidé d'attaquer ces deux pays principalement.
Alors justement, comme vous l'avez fait noter, ces deux pays cités, partenaires donc privilégiés et historiques des États-Unis, Canada et Mexique, ont riposté aussi. Quelles sont les conséquences éventuellement que les États-Unis peuvent avoir?
Ben, vous savez, toute action, il y a des conséquences. Il y a des conséquences à court terme, il y a des conséquences à long terme. Et moi, je pense personnellement, les États-Unis, c'est un pays consommateur déjà. Il n'y a pas d'autres pays au monde aujourd'hui qui consomment plus que les États-Unis. C'est-à-dire que vous recevez votre salaire aujourd'hui, demain, consommez quelque part. On n'épargne pas. L'épargne est négative aux États-Unis. Donc, en prenant le cas du Canada, par exemple, la balance commerciale entre les États-Unis pour les biens et services avec le Canada s'élève à un déficit d'environ 41 milliards de dollars. C'est-à-dire que les consommateurs américains pourraient souffrir plus dans le court terme, dans une guerre pareille. C'est-à-dire qu'on va acheter, tout ce qu'on va acheter va se retrouver un peu plus cher, par exemple. Mais les caisses du trésor américain seront garnies parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que si les Canadiens qui consomment moins que les Américains, ils sont obligés de faire venir leurs produits pour trouver des preneurs. Et donc, du coup, s'ils insistent à faire venir leurs produits avec les tarifs qui ont été marqués dessus, les Américains vont acheter. De nature, les Américains ne produisent plus depuis un certain temps. Donc, vous voyez déjà qu'à court terme, ça va se voir tout de suite dans le portefeuille des Américains que les prix vont augmenter. Mais à long terme, les Américains vont gagner. Suffit donc pour eux, les Américains, suffit de faire des réaménagements. Vous savez, aux États-Unis, tout le monde paye des impôts. Les impôts fonciers, l'impôt de tout ce qu'on consomme. Et à la fin de l'année, on a aussi ce qu'on appelle Internal Revenue Service. Et M. Trump vient de dire que ses équipes ont fait des calculs qu'ils vont transformer l'Internal Revenue en External Revenue. C'est-à-dire qu'on ne va plus payer des impôts sur nos revenus, mais ces impôts-là seront compensés par les tarifs qu'on reçoit des pays étrangers. Just Donc, vous voyez, ils sont vraiment sérieux avec cette approche-là.
S'il y a cette guerre commerciale avec le Canada et le Mexique, il y a un adversaire visé par les États-Unis qui est donc la Chine. Là-bas aussi, il y a augmentation donc, de 25% de l'acier. Est-ce qu'on peut comprendre déjà cette attaque frontale de l'administration Trump contre la Chine?
Comme vous l'avez très bien dit, le plus grand adversaire aujourd'hui aux États-Unis, c'est la Chine. En même temps, le plus grand créancier des États-Unis aujourd'hui, c'est la Chine aussi. Donc, avec ça déjà, en même temps, le plus grand consommateur marché pour la Chine, ce sont les États-Unis. Donc, le marché américain rend les Chinois riches. Nous, on ne vend rien là-bas, en Chine. Donc, quand il y a une guerre commerciale, tout le monde perd. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le court terme, il y a un qui perd. Et dans ce bras de fer avec la Chine encore, ce sont les États-Unis qui vont perdre dans le court terme. Mais dans le long terme, les États-Unis vont gagner.
C'est similaire avec l'Union européenne encore. On se rappelle que lors de son premier mandat, il avait commencé à taxer les vins spiritueux. Il fait rébellote avec la possibilité d'augmenter à 200% les taxes douanières. Et tout cela participe à une stratégie bien pensée de l'administration de Donald Trump, c'est cela?
Ah oui, bien sûr. Avec les Européens, c'est beaucoup plus, je dirais, industriel. Parce que déjà, à Davos, il avait exhorté les entreprises étrangères à transférer leur unité de production aux États-Unis. Il a dit, venez fabriquer vos produits en Amérique et vous ne payerez moins d'impôts. Et aujourd'hui, avec l'Europe, c'est pratiquement, vous avez parlé du vin, mais moi, j'irai encore beaucoup plus loin avec l'armement, tout ça. Donc voilà.
Mais est-ce que c'est du bluff ou bien Donald Trump joue un jeu de poker pour voir, essayer d'effrayer au maximum pour pouvoir obtenir des résultats?
Donald Trump a écrit un bouquin célèbre qui s'appelle The Art of the Deal. Je vous encourage à le lire. Dans ce bouquin, il dit que quand vous allez en négociation avec quelqu'un, si vous voulez avoir 20 francs, vous allez en négociation, sur la table de négociation, il faut demander 200 francs. Et à la fin, vous allez avoir vos 20 francs, peut-être même plus. C'est ça, peut-être, qui est le bluff. Mais en termes de politique, qu'il a mis sur la table politique économique, c'est pas du bluff. Et je vous donne un exemple. Ça a commencé au début avec le canal de Panama. Si vous vous rappelez que le canal de Panama qui a été construit par les Américains à l'époque à 5 milliards de dollars et qu'ils ont offert gracieusement un franc symbolique à Panama, à la République de Panama. Donc, toujours encore la Chine. Les Américains disent que quand ils passent dans le canal, ils payent. Et que quelquefois, on refuse qu'il passe parce que la Chine a utilisé le canal de Panama comme le maillon de la route de la soie. Et donc, quand Trump est venu, il a dit, je vais reprendre, on vous a donné un franc symbolique, c'est à nous, on va le reprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président de Panama a renoncé au contrat de façon unilatérale avec la Chine. Donc, la route de la soie de Panama ne fait plus partie. Les Chinois se sont plaints par rapport à ça. Donc, moi, j'appelle pas ça du bluff. La même chose avec l'Ukraine, on est en train de voir, il y a beaucoup de gens qui disaient, voilà, les Européens ont commencé à s'agiter un peu, voilà la finalité aujourd'hui.
Alors, maître de ces différentes guerres, États-Unis contre la Chine, États-Unis contre le Canada, le Mexique, États-Unis contre l'Union Européenne, est-ce que l'Afrique doit s'inquiéter de tout ce qui se passe?
Ben moi, d'origine africaine, moi je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis est une grande opportunité pour l'Afrique.
En quel sens?
Ben, dans le sens que tous les États aujourd'hui qui pensent qu'il fallait se faire aider par les pays occidentaux, il faut réfléchir maintenant. Chaque pays doit prendre ses responsabilités. Et je pense que ce plateau que Trump est en train d'offrir à l'Afrique, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes premiers producteurs de cacao. Si on veut reformer cette industrie, nous battre pour prendre le contrôle de la manufacture des produits, des chocolats, pour que les industriels qu'on combat depuis des années, pour qu'ils se mettent sur la table, pour qu'ils nous acceptent de rentrer dans l'actionnariat, par exemple, des sociétés comme Hershey, des sociétés comme Nestlé, parce que c'est nous qui produisons les entrants. Je pense qu'on peut se lever avec un leadership aujourd'hui, s'imposer. Sinon, si on ne veut pas, on va dire on ne peut pas vous livrer ce cacao. Si le cacao qui vient de la Côte d'Ivoire, je mets un tarif de 100% dessus, et puis ce qu'on va gagner de ça, ça va aller renforcer la capacité financière de nos planteurs.
Alors donc, un chemin à suivre, mais est-ce que concrètement, le fait que les produits qui seront fabriqués avec la hausse donc, de ces droits de douane et de part et d'autre, nous qui sommes des importateurs de ces produits manufacturés, on ne doit pas craindre une hausse des prix des produits finis?
Non, encore une fois, voilà ce que j'ai dit. L'administration Trump a révolutionné la politique étrangère. Donc, chaque pays va devoir réfléchir aux moyens de se libérer de cette dépendance aux États-Unis et du monde occidental.
Alors, pour terminer, M. Ousmane Bannett, est-ce que cette politique clamée par le président américain Donald Trump, America First, ne sera pas un handicap pour le pays?
Vous savez, l'histoire a toujours montré que les dynasties, c'est 300 ans et ça commence à chuter. Donc, ça ne m'étonnerait pas aujourd'hui. Vous avez vu un peu comment la Chine est montée. Donc, aujourd'hui, il y a une conférence au sommet avec les États-Unis. Il y a une courbe de croissance. Vous avez le début, la croissance, stagnation. Après, c'est la hausse de la courbe et puis ça commence à chuter. Donc, aujourd'hui, les États-Unis sont au sommet. Donc, maintenant, cette courbe-là, si on ne fait pas une nouvelle politique économique, une nouvelle politique géopolitique, l'Amérique va chuter. Donc, il faut trouver des moyens de ressortir.
De ressortir. Monsieur Ousmane Bannett, merci pour ces éclairages.
Je vous en prie, monsieur Comey. Au revoir.
Au revoir.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Voilà, mes auditeurs, nous sommes avec une jeune dame qui est dans les BTP, les travaux publics, comme on le dit communément, une jeune dame qui est très active en tout cas, et nous avons décidé de connaître son itinéraire. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Vous appelez?
Kwadio Mierassou Doria Aurélie.
Alors, Kwadio Aurélie, vous êtes dans une entreprise aujourd'hui. On vous a découvert comme ça en plein travail. Une jeune dame que vous êtes dans ce secteur, on n'en trouve pas beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé faire depuis ou bien c'est par concours des circonstances que vous êtes retrouvée là?
Bon, c'est quelque chose que j'avais pensé faire depuis. Et depuis, en cas de terminal, quand je me promenais, je voyais les travaux de construction de routes. Ça m'a plu. J'aimais ça. J'ai beaucoup aimé, donc il dit, ah, si j'ai mon bac, je vais faire le BTS en génie civil. Comme ça, moi aussi, demain, j'ai conçu aussi. Parce que c'est quelque chose, ça m'a plu.
Qu'est-ce qui vous a plu dedans?
Bon, moi, j'aime beaucoup les machines. Tout ce qui est machines, les bulldozers. C'est ça même qui a fait que j'ai aimé le génie civil. Tu vois les travaux, ramasse les sables, mettre ça dans la benne. Tout ça, ça m'a plu. Donc, c'est comme ça, il dit, moi aussi, j'ai fait ça aussi.
Vous allez faire, mais est-ce qu'à l'époque, quand vous voyez tout ça, il y avait des femmes dedans pour dire, ah, une femme peut faire parce que vous êtes une femme?
Bon, moi, c'est quelque chose quand j'ai vu ça, même s'il y a beaucoup d'hommes, il y a les hommes seulement les demandent, c'est quelque chose qui me plaît. Même s'il y a les hommes, il dit, moi, forcément, je vais faire ça aussi. J'ai fait ça aussi. Même s'il y a les hommes, c'est ce qui dit que ce que le garçon peut faire, femme aussi peut faire. L'homme aussi, c'est comme ça, je me suis lancé des dossiers.
Mais comment vous savez que pour pouvoir faire ça, il faut aller en génie civil? Quelle a été l'histoire autour?
Bon, c'est mon oncle. Mon oncle, lui, est dans le BTP. Donc c'est quand il passait le bac que j'ai approché mon papa pour lui demander ce que mon oncle fait. Puis il m'a dit que mon oncle est dans le BTP, bâtiment. Il dit, ah, si c'est comme ça, quand il voit le bac, il m'a approché de lui. Il m'a dit un peu comment ça se passe là-bas.
Alors, donc, BTP, hein, pour ceux qui nous prennent en marche, le BTP, c'est les bâtiments et travaux publics. Hein. Alors, après donc le bac, quelle est votre histoire? On vous oriente effectivement en génie civil?
Oui, monsieur.
Pour faire ça, il faut avoir des bases de scientifiques. Une jeune femme qui est bien dans les sciences et technologies, généralement, il faut aller loin. Pourquoi vous, déjà, vous intéressez à faire génie civil pour aller faire bâtiment?
C'est l'amour de vouloir faire forcément.
Et vous avez trouvé une école qui faisait le génie civil, c'est cela?
Oui, j'ai trouvé une école spécialisée dans le génie civil.
Quels sont les moyens qu'on vous avait demandé à l'époque pour pouvoir être orienté là-bas?
Les moyens, c'était 11, 12, 13, 14, jusqu'à 16. Les matières scientifiques, les maths. Et physique-chimie.
Vos parents ont réagi comment? Une jeune fille qui est bien dans les matières scientifiques, hein, c'est-à-dire l'avenir est un peu plus tracé. Aujourd'hui, on va vous voir en train de soulever des briques, aider à poser des carreaux, faire l'embellissement d'une maison. C'est vrai que c'est votre amour, mais est-ce qu'à un moment, vos parents n'ont pas tenté de vous décourager pour dire, mais tu peux aller devenir ingénieur, ainsi de suite?
Non. Mes parents m'ont soutenu, surtout mon papa. Il m'a dit que c'est bien, que de nous, je n'envoie pas les filles dedans, que c'est bien que de faire. Lui-même me soutient toujours pour ça.
Alors, mais quand vous avez fait votre formation de BTS, c'est pendant 2 ans, c'est cela?
Oui, c'est pendant 2 ans.
Alors, mais quand vous avez fini, justement, comment s'est passée votre insertion dans la vie professionnelle? Ça a été facile? Comment les choses se sont passées?
En tout cas, ce n'était pas facile. Toi, pour trouver un stage... C'était pas du tout facile. On a cherché. En tout cas, mon oncle m'a soutenu. Parce que c'est lui-même qui a trouvé ce stage pour moi. Il a cherché. Et nous, de notre côté aussi, moi et mon papa, on cherchait. Jusqu'à ce moment-là, il dit, il a trouvé. Il a un de ses camarades qui est dans le BTP comme lui, le bâtiment. Donc, il dit, va causer avec lui pour voir s'il peut trouver un stage pour moi. Donc, ce conseil, il a causé avec lui. Et puis, il lui a dit, ah, que lui, il a son entreprise, que de venir faire stage chez lui. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé l'entreprise et puis commencer un peu.
C'est dans l'entreprise dans laquelle vous êtes actuellement?
Oui, monsieur.
Alors, mais justement, vous avez appris quelque chose à l'école et puis vous venez, la réalité est là. Est-ce que ce qu'on vous a appris à l'école et ce que vous faites au quotidien, c'est la même chose?
En tout cas, ce n'est pas la même chose, c'est très, très différent. Parce que nous, on a fait beaucoup de théorie. Ici, c'est pratique. Donc, ça veut dire que ça me fatigue souvent, ça me fatigue. Regarde, le corps, on a calculé, on vient sur le terrain, on voit que c'est pas la même chose. Donc là, en tout cas, c'est un peu difficile.
Votre quotidien en tant que jeune fille dans les BTP, c'est quoi? Quand vous venez au travail le matin, qu'est-ce que vous faites?
Bon, moi, je suis là pour superviser les travaux. Quand il y a quelque chose, manque, moi, il n'y a pas les moyens, il appelle mon chef. Puis lui, maintenant, il va acheter les choses. Maintenant, si j'ai les moyens, moi, je les divorce.
Donc, vous jouez un rôle de superviseur actuellement. Est-ce qu'il est amené que vous-même, lorsque peut-être le travailleur ne réussit pas à faire quelque chose, vous puissiez le rectifier pour dire non, c'est comme ça, selon le plan, on doit faire ceci, on doit faire cela?
Oui, souvent.
Est-ce que les travailleurs, je vois beaucoup d'hommes dedans, s'ils acceptent que la jeune fille que vous êtes leur disent non, c'est pas comme ça, on doit faire plutôt comme ça. Est-ce qu'ils apprécient ou ils acceptent facilement vos instructions?
Ils acceptent.
Vous avez pensé à ça, vous faites ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous, dans ce cadre-là de BTP?
Bon, d'abord, je veux continuer mes études après, jusqu'en master. Et après ça, moi-même, ouvrir une entreprise de bâtiment aussi.
Alors, mais qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui que les femmes que vous êtes commencent à s'intéresser à ce secteur qu'on dit secteur où il faut avoir la force, tout cela, le secteur qu'on peut qualifier de secteur d'hommes?
Oui, ça me fait plaisir. Puis je suis très, très contente aussi de voir mes soeurs, mes amis, mes camarades dans ce secteur-là. Donc, ça me fait beaucoup plaisir.
Alors, si on vous demandait de donner un conseil aux autres, hein, aux plus jeunes, ceux qui ne savent pas où s'orienter, ou aux jeunes femmes qui peuvent se dire « Ah, bon, moi, je ne me vois pas en train de ramasser les briques », qu'est-ce que vous pouvez leur dire, hein, pour qu'elles s'intéressent à ce secteur aussi?
Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que dans la vie, il ne faut pas regarder le côté sale, le côté ça va être bizarre, en tout cas. Pour moi, c'est ce que j'ai aimé depuis la carrière terminale. Même si c'est sale, même si ce n'est pas sale. Donc, c'est quelque chose que moi, j'ai aimé, puis je me suis mise dedans. Non, il n'y a pas ce côté-là. Donc, pour ceux qui veulent se mettre dans le BTP aussi, qu'ils ont l'amour comme moi, en tout cas, moi, je les Moi, tout ce que je peux leur dire, c'est de foncer dedans. De foncer, de ne pas regarder la bouche des jeunes pour dire que toi, tu es femme, tu vas te mettre les dents, ça, c'est le travail des garçons, non.
Est-ce que des fois, on te décourage pas, les camarades qui ne connaissent pas ta réalité quand ils te voient? Aurélie, tu fais quoi? Chaque matin, tu es dans les ciments et autres là.
Oui, on me décourage. On m'appelle souvent même au quartier maçon. Moi, ça me dirige, ça me fait seulement rime. C'est quelque chose que j'aimais, donc j'aime mes dents. Mais si, ça me sale. C'est que je suis dedans.
En tout cas, Aurélie, merci. Quoique Aurélie, je précise, vous avez décidé de vous intéresser au BTP, au bâtiment et aux travaux publics. Mes auditeurs, c'était donc avec cette jeune dame, Quoique Aurélie, dans le cadre d'itinéraire. Vous savez, nous découvrons des personnes qui sont des modèles. Allez, on se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.